Vous écoutez RTL.
Je lance un appel à toutes les personnes susceptibles d'apporter des renseignements pouvant faire avancer l'enquête. C'est toute une famille qui attend Sylvie. Merci.
Bonsoir, c'est une scène de crime qui s'étend sur 200 kilomètres, qui longe l'autoroute A6 et les paysages bucoliques de la Bourgogne. C'est dans ce décor que 14 jeunes femmes ont été tuées ou ont disparu entre 1986 et 1997. On les appelle communément les disparues de l'A6. Disparues, effectivement, à double titre. Tout d'abord, parce que au moins deux d'entre elles n'ont jamais réapparu. Ensuite, parce que la justice a souvent été tentée de classer ces dossiers, de prononcer des non-lieux et d'oublier ces jeunes femmes. Il faudra toute l'opiniâtreté des familles et de leurs avocats pour que la quête de vérité se poursuive. Des proches qui, à force d'obstination, ont obtenu que des rapprochements soient effectués avec certains criminels comme Pascal Jardin, déjà condamné pour l'un des meurtres de l'A6, ou encore Michel Fourniret, récemment décédé, dont l'ombre se profile derrière les meurtres non élucidés de trois jeunes femmes figurant dans cette longue liste. Des vérifications sont en cours. Après tant d'années, peut-on espérer encore des réponses à ces crimes inexpliqués? Les nouvelles avancées de la science vont-elles faire des miracles? Question posée à nos invités ce soir qui nous diront pourquoi il est urgent de continuer encore et encore à enquêter.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire des disparus de l'A6, une série de meurtres et de disparitions dans un même périmètre en Saône-et-Loire. Dossier ouvert dans la torpeur de l'été 1984. Le 20 août 1984, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, deux cousines, toutes deux âgées de 22 ans, téléphonent à leur famille en Belgique, dans la région de Liège. Les deux jeunes femmes, l'une est kiné, l'autre termine ses études de droit, sont bien arrivées à la gare de Mâcon. Elles vont désormais faire du stop pour visiter la région, 15 jours de vacances. Elles ont prévu de terminer leur séjour vers Aix-les-Bains, au lac du Bourget, où elles feront de la planche à voile. Pour le moment, un chauffeur routier les emmène jusqu'à Charolles. Deux jours plus tard, le 22 août, vers 18h30, elles se trouvent sur le quai Lamartine, à Mâcon, alors qu'un ami, chez qui elles logeaient, les prend en photo. C'est leur dernière apparition. Les cousines belges repartent sac à dos pour faire du stop. On ne va plus jamais les revoir. Leurs parents donnent l'alerte dans les jours qui suivent, mais il semble déjà trop tard. Aucun témoignage, aucune piste relevée par la police. Françoise et Marie-Agnès se sont comme volatilisées, enlevées alors qu'elles cheminaient au bord d'une route et très certainement tuées. Faute d'éléments probants, la double disparition des touristes belges est rapidement mise entre parenthèses, puis oubliée. Seules les familles vont continuer à se manifester et se manifestent toujours aujourd'hui pour essayer de savoir ce qui est arrivé à leur fille. Autant dire que la disparition d'une autre jeune femme, Sylvie Aubert, 23 ans, deux ans plus tard, n'est pas immédiatement reliée à celle de Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier. Ce 14 novembre 1986, Sylvie Aubert, caissière à l'hypermarché Mammouth de Chalon-sur-Saône, a quitté son travail à 21h. Elle a pris son vélomoteur pour entrer par une petite route chez ses parents à Saint-Loup-de-Varennes. Son père, inquiet de ne pas la voir apparaître, va retrouver le vélomoteur sur le bas-côté, le sac à main accroché au guidon, une chaussure appartenant à Sylvie est au milieu de la chaussée. Pas un accident, mais un enlèvement. 5 mois plus tard, le corps de la jeune caissière est retrouvé dans la Deune, une petite rivière du coin. Elle est entièrement nue, son pull vert sur la tête, ses poignets liés par du fil de fer. Elle a été frappée et étranglée avec son foulard. Le légiste établit qu'elle a été violée. Le dossier Aubert ne progresse pas. Après 10 ans d'enquête, la justice arrête les recherches. La sœur de la victime, Martine Aubert, se constitue alors partie civile. Les investigations continuent. Le nom du tueur en série, Ulrich Münstermann, surgit. Sans suite, le 17 janvier 2019, la justice décide de rendre un non-lieu. La famille et ses avocats protestent. La cour d'appel de Dijon leur donne satisfaction. Le cold case Sylvie Aubert ne sera pas refermé. Bonsoir Corinne Herman.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de l'association Christelle, dont on va beaucoup parler dans cette émission, co-auteur avec Didier Seban du livre « Nous, avocats des oubliés, sur la piste des crimes non résolus » aux éditions Jean-Claude Lattès. Et vous êtes dans ce dossier, évidemment, avec Didier Seban. Alors, on va parler des autres disparitions, des autres assassinats. C'est vous qui êtes à la manœuvre en 2019, dans le cas Sylvie Aubert, avec Didier Seban, bien sûr. Vous dites tous les deux aux juges à l'époque qui veulent fermer le dossier, il n'y a pas urgence à refermer cette affaire. Pourquoi dites-vous ça aux juges ?
Il n'y a jamais urgence à fermer un dossier, puisque tant qu'on n'a pas trouvé l'auteur des faits et qu'on n'a pas résolu cette affaire, eh bien, ça reste une peur pour les familles et une angoisse, ça reste une peur pour la région, ça reste le devoir de la justice de continuer à investiguer. Alors, beaucoup pensent qu'un dossier doit être résolu dans les quelques mois qui font suite au meurtre, mais l'expérience nous montre que beaucoup de dossiers, et on le voit dans l'actualité judiciaire tous les jours, beaucoup de dossiers peuvent être résolus pour peu qu'on s'y intéresse, pour peu qu'on continue à chercher, pour peu que les témoins se manifestent, peuvent être résolus des années après.
J'ai presque envie de vous dire, Corinne Herman, l'affaire Aubert, c'est presque un cas emblématique, parce que vous, les avocats, bien sûr, mais aussi la famille, c'est presque à la force du poignet que les investigations ont toujours été relancées dans cette affaire.
Oui, c'est parce que les familles sont là et parce qu'on peut les épauler qu'on arrive à relancer ces dossiers. Mais c'est le cas de l'ensemble des dossiers de la région et de l'ensemble des cold cases en général. C'est notre travail, on dit toujours que ce n'est pas de combattre les criminels, c'est de combattre la justice quand elle veut fermer ses dossiers et abandonner les recherches. Il faut absolument combattre et les familles ont la parole pour cela, parce que c'est elles qui le vivent et qui en souffrent directement. Elles sont à nos côtés pour cela. Il faut combattre cette justice qui ne veut pas travailler et qui considère qu'un dossier un peu plus ancien, ça demande des efforts et qu'on ne peut plus trouver. C'est faux.
Une justice qui ne veut pas travailler, vous dites, je vais poser à peu près la même question avec Marie-Rose Blétry qui est en ligne ce soir avec nous. Bonsoir Marie-Rose.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir dans l'heure du crime et de venir donner votre témoignage. Vous êtes la mère de Christelle Blétry. On va évidemment parler de son cas. Votre fille a été tuée en 1996. Et vous êtes la fondatrice de l'association Christelle qui porte donc le prénom de votre fille. Je vous pose la même question. L'affaire Aubert, elle symbolise toute la volonté qu'il faut pour que la justice entende ce que vous dites. Parce que la justice, elle a très envie chaque fois de refermer les dossiers. Et ça a été le cas pour tous les dossiers, presque, Marie-Rose Blétry.
Ah oui, c'est vrai que je crois que la volonté du parquet de Chalon, c'est de ne plus du tout travailler les dossiers. Ils se sont contentés de résoudre le dossier Maïri et le dossier mon dossier. Et depuis, il ne se passe plus rien. Il faut toujours combattre aller en cours d'appel parce qu'on veut fermer les dossiers, parce qu'on n'a pas fait ça, etc. C'est très compliqué et c'est insupportable pour les familles de devoir toujours aller en appel pour
revenir à la charge, etc.
Exactement.
C'est compliqué. Vous avez l'impression de... C'est un peu Sisyphe. Chaque fois, vous recommencez les efforts.
C'est un combat permanent. Non seulement les familles souffrent, et c'est anormal de devoir toujours de relancer, etc. Le nombre de fois que Didier Seban et Corinne Herman ont fait des demandes pour que des vérifications soient faites, pour qu'on fasse des recherches d'ADN, pour comparer, etc. Le nombre de fois, c'est incroyable que la justice ne le fasse pas. Et c'est insupportable justement pour les familles qui n'en peuvent plus d'attendre. Parce qu'on dit après, ce sont des vieux dossiers, mais c'est la justice qui fait que ce sont des vieux dossiers.
Voilà. Tout à fait, il ne faut pas renverser évidemment la responsabilité. Et on est là d'ailleurs ce soir pour vous donner la parole dans l'heure du crime et puis écouter vos réclamations, ou en tout cas ce que vous pouvez regretter dans ces enquêtes qui sont effectivement trop lentes ou qui ont peut-être été mises trop vite entre parenthèses. Corinne Herman, un mot tout de même sur ces touristes belges, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier. Alors elles, on les a presque oubliées aujourd'hui.
Elles ont été oubliées très longtemps parce qu'on a découvert leur existence grâce à l'association Christelle quand on a réuni l'ensemble des noms des victimes de la région. Il faut savoir que le dossier n'est pas traité dans la région, qu'il est traité par un autre tribunal. Mmh. Et puis, comme les parents sont belges, ils n'ont peut-être pas su trouver le chemin de cette association et trouver le chemin pour convaincre les magistrats. Et donc, elles sont tombées un peu dans l'oubli. Il y en a d'autres dans la région qui sont aussi tombés dans l'oubli. Et j'espère qu'à terme, ces dossiers seront repris. Mais enfin, il faut combattre, il faut être présent, il faut que les familles soient présentes pour qu'on y arrive.
Et on est là pour en parler ce soir, évidemment. Les meurtres de jeunes femmes dans la région de Mâcon, le long de l'autoroute A6, vont se poursuivre et apporter leur lot de mystères successifs. Des enquêtes qui s'enlisent et des rapprochements trop souvent inexistants. Ce 18 décembre 1986, un mois après la disparition de Sylvie Aubert, le corps de Christelle Maïri, une lycéenne de 16 ans, est retrouvé dans le local à vélo d'un immeuble du Creusot, au numéro 12 de la rue des Capucines. Christelle a reçu une trentaine de coups de couteau. Elle s'est débattue et a essayé de repousser son agresseur. Elle n'a pas subi de violence sexuelle. Le facteur qui faisait sa tournée se souvient d'avoir vu un jeune homme blond portant un blouson en jean sortir en courant de l'HLM. Les auditions vont se multiplier, voisins, amis du lycée, marginaux, sans apporter de lumière. Le 19 février 1990, le juge d'instruction délivre une ordonnance de non-lieu. 6 mois plus tard, le service des scellés du tribunal de Chalon-sur-Saône détruit toutes les pièces à conviction de l'affaire. Les vêtements de Christelle, ses bijoux, ainsi qu'un couteau grossièrement aiguisé retrouvé dans un buisson. La mère de la victime, Marie Pichon, va protester en vain. Il faudra attendre 2011 et un témoignage pour qu'un homme de 44 ans, Jean-Pierre Murat, soigné pour schizophrénie, soit arrêté. Il sera condamné pour ce crime à 20 ans de réclusion. Françoise, Marie-Agnès, Sylvie, Christelle et désormais Marthe et Nathalie. 15 août 1987, peu après 19h, cette adolescente de 16 ans est retrouvée agonisante sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A6 à hauteur de Saint-Albin, à 40 km de Chalon-sur-Saône. Marthe Buisson, pensionnaire d'un foyer pour l'enfance et habituée à l'autostop, a été éjectée d'un véhicule qui roulait à grande vitesse. Elle décède à l'hôpital. 15 jours plus tard, 2 septembre 1987, à 3 km de là, l'employée d'une sandwicherie de l'aire autoroutière de Saint-Albin est retrouvée morte. Nathalie Maire, 18 ans, frappée à coups de manche à balai, a été étranglée avec une rallonge électrique. Une bretelle de soutien-gorge qui ne lui appartient pas est retrouvée sur les lieux. Aucun autre indice, pas de témoignage. Seul détail troublant, Nathalie avait été entendue sur la mort de Marthe, l'adolescente ayant déjeuné à la sandwicherie en compagnie d'un homme. La jeune employée aurait-elle pu reconnaître cet homme qui serait revenu pour la faire taire ? Cette piste sera explorée mais ne donnera rien. Personne ne sait qui a tué Marthe Buisson et Nathalie Maire. Corinne Herman, ce soir dans l'heure du crime, avocate de l'association Christelle et qui, avec Didier Seban, défend les familles des victimes dans ce dossier, les disparus de la CIS. Je voudrais qu'on revienne sur le cas Christelle Maïri, cas qui a été résolu, on vient de le dire, cas qui est exemplaire parce que effectivement cette enquête-là aussi a failli se perdre. Et avec Corinne Herman, la racontez-nous, cette décision inexplicable et j'ai envie de dire révoltante. On a détruit les scellés.
Oui, on a détruit les scellés parce qu'au bout d'un certain nombre de mois, on fait le vide sur les étagères, on fait de la place pour les scellés suivants et on mélange un peu tous les scellés criminels, civils, etc. Et donc, il faut faire de la place. Donc, on détruit les scellés, on regarde les dates des dossiers, les dates des non-lieux et puis on se débarrasse des preuves tous les jours de ces crimes. Tous les jours en France, on détruit des traces de criminels et des preuves de crimes de cette façon-là parce que ce sont des numéros et les parquets autorisent ces destructions. Ça a été très très difficile ce moment-là dans ce dossier. Oui. C'était difficile même professionnellement d'annoncer ça à la famille.
Mais oui, parce que la famille ne comprend pas du tout dans ces cas-là. Mais maître, il n'y a rien à faire ça pour que essayer de garder ces scellés vivants, si je puis dire.
Oui, nous, on le sait. C'est-à-dire que quand on rentre dans un dossier, on considère que c'est notre responsabilité de tout de suite figer les scellés et de tout de suite demander la préservation de ces scellés. Mais la loi française autorise à détruire ces scellés 6 mois après un non-lieu, 6 mois après la fermeture d'un dossier. Ce n'est pas faute avec l'association Christelle d'avoir rencontré des ministres. Ce n'est pas faute d'avoir sollicité une modification de la loi sur ce terrain qui ne serait pas difficile parce que ça ne coûte pas très cher de préserver les dossiers. Je dirais juste les scellés criminels et de les préserver et de vérifier ce qu'on détruit. C'est dramatique pour les familles, c'est dramatique pour les enquêtes, parce qu'on perd les traces génétiques, on perd toutes les traces des criminels de cette façon-là, et ce ne serait pas difficile de les protéger. C'est notre rôle, peut-être, en tant que d'avocat, d'essayer de suppléer à ce que c'est pas faire la justice et d'essayer de protéger ces scellés. On a essayé dans ce dossier et on est arrivé trop tard.
Oui, et c'est notre rôle aussi d'en parler. D'ailleurs, si le garde des Sceaux nous écoute, qui est un ancien avocat, évidemment, on peut lui faire passer le message. Il faut absolument garder les scellés dans les enquêtes criminelles, accessibles et vivants, parce que c'est capital pour la suite des enquêtes. C'est un petit rien qui pourrait tout changer. Corinne Herman, comment est-ce qu'on remonte la piste de ce dénommé Jean-Pierre Murat, qui est le premier finalement à apparaître dans un dossier, un coupable puisqu'il a été condamné. Il avait 19 ans au moment des faits. Comment on le retrouve, cet homme ?
Bien, c'est quand on reprend le dossier, quand on a la procédure, on va, avec l'association Christelle, mettre en place une petite enquête privée, c'est-à-dire qu'on va travailler avec un enquêteur privé sur quelques éléments du dossier qu'on voulait préciser par rapport à ce qui avait été indiqué par les enquêteurs, qui était insuffisant sur l'environnement de Christelle. Mmh. Et de cette manière-là, cet enquêteur privé va aller, à notre demande, rencontrer l'ex-petit ami de Christelle pour qu'il nous donne plus d'éléments sur sa vie à l'époque, sur ce qu'elle pouvait faire. On sait, quand on revient 20 ans après, qu'on a plus de confidence que tout de suite, à chaud, je dirais. Et il se trouve que ce jeune homme va confier à notre enquêteur privé qu'un homme lui a passé des aveux, en fait, sur le crime de Christelle Maillery, qu'il a voulu même venir le dédommager pour avoir tué sa petite amie. Et nous, tout de suite, on va prendre ce témoignage au sérieux. Et c'est comme ça que, quelques années après, on va enfin entendre ce témoignage.
Alors, c'est important ce que vous dites, parce que vous dites on a fait appel à un enquêteur privé, comme si, effectivement, la police ou la gendarmerie ne suffisait pas pour pouvoir résoudre des affaires. Et on voit bien qu'elles aboutissent quand on y met les moyens et la volonté de le faire. Marie-Rose Blétry, mère de Christelle Blétry et fondatrice de l'association Christelle, vous avez le sentiment que la police n'est parfois pas assez équipée, la police ou la gendarmerie, en tout cas que les enquêteurs ne sont pas assez armés pour faire face à ces enquêtes au long cours?
Oui, tout à fait. Moi, je pense que, surtout en Saône-et-Loire, j'ai l'impression que tous ces dossiers dérangent dérangent ou ne dérangent pas, on les empile, on les met de côté et on ne veut pas les travailler. Moi, je pense à dans l'affaire Maillery, une enquêtrice n'a pas voulu aller du côté de Chamonix pour entendre un témoin parce que c'était trop loin et puis parce qu'elle n'y croyait pas. Mais c'est pas comme ça qu'on doit travailler un dossier, une enquête. Enfin, on a plein d'exemples comme ça, des lettres anonymes qui sont arrivées que la PJ ne venait pas récupérer. Bon, on a vraiment le sentiment que il fallait vraiment batailler pour qu'on soit écouté et c'était compliqué.
Quand vous avez pris les rênes de l'association, enfin quand vous avez fondé plutôt l'association Christelle, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les témoignages de ces familles? C'est l'inertie, c'est le fait qu'on n'écoutait pas toutes ces personnes dont vous faites partie, évidemment.
Oui, c'est surtout aussi le nombre de familles, parce que qu'on soit une, deux, mais quand on voit le nombre d'affaires non résolues en Saône-et-Loire, ça interpelle quand même.
Tout à fait, c'est effrayant, effrayant.
Oui, voilà, et c'est le fait de s'être réunis à l'association, je pense que on espérait que ça puisse faire un poids et que de ce fait, on soit écouté et qu'on puisse avoir les moyens pour enquêter. Alors, on a obtenu des petites choses, mais...
Mais pas suffisamment.
On a le dossier résolu quand même.
Oui, c'est
compliqué de demander, par exemple, qu'un seul tribunal intervienne. Il a fallu que le cabinet Seban fasse des demandes et que l'association aille au ministère de la Justice, de l'Intérieur, rencontre les procureurs.
C'est vraiment une course de fond très longue et harassante. Corinne Herman, un mot sur les deux meurtres coup sur coup, la jeune fugueuse Marthe Buisson et l'employée de sandoucherie Nathalie Maire. Est-ce qu'on peut y voir la patte, si je puis dire, d'un même tueur?
Écoutez, on ne sait pas si c'est le même tueur, mais ce qu'on sait, c'est que le dossier Marthe Buisson a été abandonné très vite et que lorsqu'il y a eu des éléments complémentaires, ça n'a pas été travaillé. On a cessé de le dénoncer et que c'est certain, Nathalie Maire a été entendue dans le cas du dossier Buisson et que personne n'a fait le lien, puisque c'est nous qui l'avons fait, en ayant les deux procédures et en ayant la possibilité de les lire. Et on s'est rendu compte que les supposés auteurs qui avaient, même s'ils n'ont pas été poursuivis parce que l'un d'eux est mort, pour le dossier Marthe Buisson, n'ont jamais été entendus correctement, cette piste n'a pas été exploitée, et qui sont revenus sur l'aire d'autoroute, alors que je dirais que Nathalie Maire y travaillait. Et tout ça, on le donne à la justice et elle n'en fait absolument rien.
La justice ne fait rien, mais pas de répit pour les tueurs de jeunes femmes le long de l'autoroute A6 en ces années 1990. Des enquêtes qui tournent en rond, même si des profils criminels plus précis vont commencer à apparaître. Le 28 décembre 1996, la mère de Christelle Blétry, 20 ans, étudiante dans un lycée agricole, découvre que sa fille n'est pas rentrée de la nuit. Elle a passé cette nuit-là avec d'autres lycéens dans une maison de Blanzy. Christelle a quitté la petite fête juste avant minuit et est repartie chez elle à pied pour rejoindre la demeure familiale dans un lotissement tout proche. Vers midi, le facteur de Blanzy découvre le corps de la jeune femme abandonnée au pied d'un talus. Elle a été tuée à coups de couteau, 123 coups de couteau. Celui qui l'a frappée a sans doute commencé à la poignarder dans une voiture. Un homme est rapidement soupçonné, mais il est relâché. Les années vont ainsi s'écouler au rythme de pistes ouvertes et refermées. La PJ de Dijon va cibler pas moins de 27 suspects, mais aucun de ces hommes ne peut être le tueur. Marie-Rose Blétry, la maman de Christelle, met tout en œuvre pour que les investigations continuent coûte que coûte. Elle fonde l'association Christelle, qui va tout simplement fédérer les familles de victimes disparues et mortes dans ce même triangle de Saône-et-Loire, des familles généralement perdues et désemparées. L'obstination de Marie-Rose Blétry et des avocats de l'association Maître Seban et Herman finit par porter ses fruits. Le 9 septembre 2014, 18 ans après la mort de Christelle, un ouvrier agricole de 57 ans, Pascal Jardin, marié, père de deux enfants, est interpellé dans les Landes. Son empreinte génétique, grâce aux dernières techniques d'identification ADN, a fini par parler. Jardin était inscrit au fichier national des empreintes génétiques après une tentative d'agression sexuelle en 2004 en Saône-et-Loire. L'ouvrier agricole avoue le meurtre de Christelle Blétry, puis se rétracte. Le 2 février 2017, Pascal Jardin est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans pour le viol et le meurtre de la lycéenne. Condamnation confirmée en appel, Pascal Jardin ne va dès lors cesser d'intéresser les enquêteurs, les familles de l'association Christelle et leurs avocats. Ces derniers vont ainsi demander que son ADN soit comparé aux éléments retrouvés sur d'autres scènes de crime des disparus de l'A6. Le nom de Jardin sera ainsi cité dans l'affaire Sylvie Aubert. Les enquêteurs belges travaillant sur la disparition des cousines Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier se sont également penchés sur son cas. Marie-Rose Blétry, on vous retrouve dans l'heure du crime. Vous êtes évidemment la mère de Christelle Blétry, on vient de le raconter, qui a été tuée en 1996. Vous avez l'habitude de dire, je l'ai lu dans vos interviews, que après une épreuve pareille, on ne vit pas, on survit. C'est toujours le cas pour vous aujourd'hui, des années après ?
Oui, non, mais c'est sûr. La perte de Christelle, l'absence... Enfin, je pense que quand on perd un enfant dans des conditions, déjà de perdre un enfant, c'est horrible. Dans ces conditions, c'est le summum et c'est toujours très difficile. bon, pour moi, ça restera toujours très douloureux jusqu'à la fin de ma vie, quoi.
Il y a toujours ce vide et cette absence terrifiante, hein. C'est bien
oui,
ça. Hein.
Oui. Et puis, ce qui est difficile, c'est de penser à sa fille et de ne la voir qu'en se faisant assassiner de cette façon, quoi. C'est insupportable.
Oui, c'est insupportable. C'est effectivement le terme qui doit revenir dans la bouche de toutes les familles. Je voudrais que vous nous disiez, Marie-Rose Blétry, pourquoi vous avez eu ce besoin de créer cette association qui porte le prénom de votre fille Christelle, l'association Christelle.
Alors, l'association, je suis contente que vous posiez cette question parce que l'association a été créée par les amis, parce que moi, je n'étais pas trop en état de réunir...
Et d'avoir la force de le faire, c'est ça.
Voilà, mais j'ai eu la chance, mais une chance incroyable, c'est d'avoir une quantité d'amis, parce que on avait beaucoup de connaissances, et après l'assassinat de Christelle, dans ma salle, il y avait plus de 40 personnes pour venir nous soutenir, et quand on a expliqué les conditions, l'accueil au commissariat, l'accueil à l'hôpital, enfin, au départ, c'était parce qu'on avait été très très mal accueillis, et tout de suite, les amis ont dit plus jamais ça. Et à la première réunion publique, deux autres familles étaient présentes, Madame Pichon, la maman de Christelle Maïri, et Monsieur et Madame Soltysiak, les parents de Carole Soltysiak. Donc, ce qui fait que on s'est retrouvés trois familles.
Vous êtes retrouvés, vous avez partagé finalement votre malheur, mais pour essayer d'en sortir quelque chose de positif et d'avancer et de vous serrer les coudes.
Oui, oui. Et puis on espérait que d'être trois, on aurait le poids suffisant pour faire avancer les choses, parce que les dossiers déjà de Christelle Maïri, Soltysiak étaient commençaient d'être un peu anciens. On avait l'impression, qu'ils n'étaient pas très sûrs.
Oui, on avait l'impression qu'ils étaient un peu en friche, c'est ça qu'il faut dire.
Voilà,
quoi,
hein,
que finalement, on ne s'occupait pas trop de vous, parce que sans doute les enquêteurs, les juges avaient d'ailleurs énormément de boulot et peut-être autre chose à faire que de s'intéresser à ces dossiers qui traînent. Corinne Herman, avocate justement de l'association Christelle avec Didier Seban, je voudrais que vous nous parliez de Pascal Jardin. Pourquoi est-il si intéressant ce criminel? Alors, il a été condamné, mais pourquoi est-ce qu'il revient aujourd'hui un peu dans le jeu?
Moi, d'abord parce que sa personnalité nous permet de penser que c'est pas un accident, qu'il n'y a pas un cas unique, mais qu'il a pu avoir des velléités de reproduire le crime qu'il a commis sur Christelle Blétry, et peut-être dans d'autres cadres. Ensuite, il a commis des faits en 2004 qui, si la jeune femme n'avait pas été sauvée par son compagnon, aurait été absolument affreux. Il s'était organisé pour être dans l'impunité totale et pour pouvoir rester avec sa vie le plus longtemps possible. Donc on voit qu'il y a quand même un profil qui est extrêmement dangereux. Il se trouve qu'il est dans la région à l'époque des autres meurtres. Il se trouve qu'il peut avoir des liens, en tout cas qu'il se trouve pas très loin des victimes d'autres meurtres. Donc c'est normal de s'intéresser à lui. Ce qui est anormal, c'est que la justice ne le fasse pas et qu'on soit obligé d'en parler et de former des demandes.
Allez-y,
juste dire pour Marie-Rose, c'est aussi important parce que même pour les familles qui ont des réponses, c'est important de savoir quelle est la vraie personnalité de l'auteur qui a été condamné pour leurs faits et de mieux comprendre le processus et surtout qu'il soit aussi condamné pour d'autres faits. C'est aussi important pour les familles qui ont déjà une réponse. Et la justice oublie aussi.
Oui, c'est ça. Je vous reprenais un petit peu en vol parce que c'est quand même très étonnant, parce que depuis le début de cette émission, on s'aperçoit, je ne vous jette pas des fleurs, mais on s'aperçoit que c'est vous, avocat, Corinne Herman, Didier Seban, qui avez finalement levé les lièvres et sur des histoires où on aurait peut-être pu aller plus vite. C'est quand même incroyable, incroyable de perdre autant de temps.
Et parce qu'on ne s'intéresse pas à ces dossiers et qu'on a des magistrats qui souvent ont une rotation assez rapide, qui ont autre chose à faire, ce qui est en même étonnant parce qu'un juge d'instruction, il est aussi là pour résoudre des crimes, en tout cas pour les investiguer. Et puis, ils ne lisent pas les procédures. La seule différence, c'est qu'on lit les procédures et qu'on voit les liens. Après, nous, on a les familles derrière nous. On a des familles qui nous aiguillonnent, mais aussi qui nous soutiennent, parce que c'est un vrai parcours du combattant qu'on vit avec nos clients. Et on ne comprend pas que les juges... Moi, je comprends difficilement que des parquetiers ou des juges d'instruction nous envoient promener, parce que c'est régulier. La preuve, c'est qu'on doit plaider devant la chambre de l'instruction, et c'est pas pour rien. Je préférerais qu'on me dise que j'ai tort et qu'on me le démontre parce qu'on aurait travaillé, que de me dire que j'ai tort ou de rejeter nos demandes simplement parce qu'on n'a pas envie de les regarder. Mmh. Et c'est une situation absolument abominable pour les familles.
Mmh. Et on en est où, Corinne Hermann, de ces demandes de comparaison ADN concernant, là je parle de Pascal Jardin. On va parler de Michel Fourniret dans le chapitre suivant, mais concernant Pascal Jardin, on en est où de ces comparaisons ADN? C'est assez long, non?
Pour l'instant, je ne sais pas trop ce qui se passe parce qu'on ne nous répond pas toujours. Après, ce qui est intéressant dans les dossiers de la Saône-et-Loire, c'est que quand même, on a des traces ADN quasiment sur tous les dossiers. Il faut le savoir, personne ne le sait. Ce sont des traces ADN qui ne peuvent pas être inscrites au FNAEG parce que c'est un type de trace ADN qui ne peut pas être inscrit au FNAEG parce qu'elle n'est pas dans les protocoles du FNAEG. Ce sont des ADN souvent mitochondriaux. Donc on a des ADN dans chacun de ces dossiers qui pourraient être comparés à Pascal Jardin et à un autre suspect dans la région aussi qui est intéressant, qui est Jackie Martin. Et on ne compare pas ces ADN aux ADN des suspects qu'on connaît déjà, on ne les compare même pas entre eux d'un dossier à l'autre.
Et pourquoi ?
C'est-à-dire qu'on est loin, je ne sais pas, c'est l'archéologie, on est très 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 loin, on est au Moyen-Âge de l'enquête judiciaire en France, parce qu'on a demandé je ne sais combien de fois que les ADN partiels, ou qui ne sont pas complets, ou qui ne sont pas inscriptibles au FNAEG, soient comparés au moins entre eux au tribunal. Peut-être qu'on aurait des surprises.
Et vous n'avez pas de réponse là-dessus ?
Non, on n'a pas de réponse. Alors encore moins sur Pascal Jardin, ça va mettre encore plus de temps pour être honnête.
Le nom de Pascal Jardin retient l'attention des enquêteurs et des familles de victimes. Il n'est pas le seul, celui du tueur en série Michel Fourniret. Était régulièrement cité dans ce dossier, il pourrait être impliqué dans 3 meurtres de jeunes femmes non élucidées. Michel Fourniret, mort le 10 mai 2021, a laissé derrière lui une foule d'interrogations et surtout d'indices, longtemps délaissés par la justice, faute de curiosité ou de tactiques adéquates pour pouvoir les exploiter. Plus d'une trentaine d'ADN prélevés au fil des années dans les affaires de celui qu'on surnomme l'ogre des Ardennes sont ainsi en cours d'analyse. 25 ADN sont inconnus. Ils ont été extraits parmi 736 éléments pileux, en l'occurrence des cheveux et des poils, retrouvés dans la camionnette du tueur en série. Ces traces vont être comparées aux éléments retrouvés sur 26 scènes de crimes françaises, parmi lesquelles 3 concernent le dossier des disparus de la CIS, Carole Soltysiak, Virginie Bluzet et Vanessa Thielon, 3 jeunes victimes sauvagement assassinées par un inconnu qui n'a jamais été identifié. Carole Soltysiak, 13 ans, a-t-elle croisé la route de Michel Fourniret le samedi 17 novembre 1990, en fin d'après-midi, à Monceau-les-Mines? Ce jour-là, Carole a passé une partie de l'après-midi avec des copains et des copines. Elle a ensuite acheté un cadeau pour sa mère, puis a repris à pied le chemin du domicile parental à Saint-Vallier, tout près de Monceau-les-Mines. Son petit copain l'a accompagnée dans les magasins, puis l'a laissé terminer sa route, seule. La disparition de Carole est signalée le soir même, à 19h. Le lendemain, un chasseur découvre son corps près de l'étang de Ramus, dans les bois de Roselay, à 15 km du domicile de la famille Soltysiak. L'enquête ne donne rien. Carole, elle, serait-elle montée dans la voiture de Fourniret ? 7 février 1997, Virginie Bluzet, 21 ans, quitte la maison familiale à Beaune. Elle s'évapore. Son corps est retrouvé plus d'un mois plus tard en bord de Saône, au lieu dit le Petit Chauvor. Elle a les mains liées dans le dos avec des menottes. Un bâillon blanc obstrue sa bouche. 2 ans plus tard, 5 juin 1999, c'est le cadavre de Vanessa Thielon, 17 ans, qui est retrouvé dans la Saône. Elle a été rouée de coups. Sa mère avait signalé sa disparition 15 jours auparavant. Là aussi, les investigations vont faire chou blanc. Carole, Virginie, Vanessa ont-elles été tuées par un seul et même homme? Bonsoir Michel Bluzet.
Bonsoir Jean-Alphonse.
Merci beaucoup vraiment d'être ce soir en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes le père de Virginie Bluzet, donc je viens de raconter ce qui s'est passé ce 7 février 1997. Je suppose que vous n'avez pas oublié ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Michel Bluzet?
Bon, ben c'est ma fille, quoi. Le soir, elle est partie, évidemment. Elle est partie faire une soirée. Bon, elle nous a dit au revoir au papa et puis à la maman, quoi, évidemment, comme elle faisait comme d'habitude. Et donc, quand on l'a pas vu qu'elle n'est pas rentrée le lendemain, on s'est déjà inquiété parce que c'était pas son attitude, une journée, bon. Et puis après, bon, ça a été deux jours, trois jours, quatre jours, mais pendant ce temps-là, je la cherchais quand même, moi. Mmh. Puis comme j'avais un ami qui était commissaire de police à Beaune, j'ai été le voir et puis j'ai dit, oh, c'est ma fille, n'est pas rentrée, ça faisait une semaine. Et à ce moment-là, il m'a dit, bon, on va faire un avis de recherche. Et puis on a fait l'avis de recherche, mais on l'a retrouvé, bon, un mois après, quoi. Menotté, bâillonné, et...
Alors, vous dites, Michel Bluzet, vous avez entrepris des recherches, mais quelles recherches exactement vous avez lancées à cette époque?
On a été voir tous ses amis qu'elle connaissait, quoi, tout autour, quoi. Mmh. Voir s'ils l'avaient vue. Alors évidemment, il y en a qui la voyaient un peu partout, à Paris, vous savez, hein, quand c'est comme ça. Mais bon, j'y croyais guère, moi, parce qu'elle nous aurait appelés. Bon, mon épouse était tellement croyante, on a été voir un voyant, envers la Suisse, là. Oui. Puis bon, c'est pareil, il avait vu s'amuser à Paris, alors là, vous voyez. C'est pour ça que j'y crois plus à ces trucs-là. Donc, et puis après, bon, bah, évidemment, on l'a retrouvé, quoi, un mois après, quoi, Virginie.
Et alors, comme Marie-Rose Blétry, qui est en ligne ce soir dans l'heure du crime, vous n'avez rien lâché, Michel Bluzet. Vous êtes battu pour ouvrir le dossier en 2009, et en demandant, je crois, l'examen des scellés à cette époque.
Oui, voilà. Mais heureusement qu'on avait Didier Seban, quoi, qui s'est battu avec nous, Didier avec Corinne, quoi, pour faire ouvrir le dossier. Vous savez, quand il y a eu un non-lieu, oh, je voulais tout arrêter parce que j'avais mon épouse qui était bien malade déjà, et donc je voulais tout arrêter, quoi. Et donc après, j'ai mon épouse qui est décédée, donc j'avais plus le moral du tout, quoi, à faire ça, quoi. Donc c'était pas facile pour moi, hein, tout ça. Donc après, bon, ben, heureusement, un jour, l'association Christelle m'a contacté. J'ai repris un petit peu confiance en moi, quoi, et puis j'ai été les voir. Et puis voilà, et puis depuis, je les ai jamais quittés, puis heureusement d'ailleurs. S'il n'y avait pas l'association Christelle, vous savez, quand vous êtes tout seul, il vous arrive un truc comme ça, on vous oublie complètement. Heureusement qu'il y a des associations, hein, comme ça, hein, pour faire bouger le monde. Hein.
Michel Bluzet, vous avez, je crois, demandé de comparer l'ADN de Virginie avec ceux retrouvés chez Michel Fourniret, c'est bien ça?
Voilà, exactement. Fourniret et puis Jardin aussi, hein, pareil. Hein, Jardin aussi. Hein. Il habite à Demigny, c'est pas loin, c'est à côté. Hein. Donc c'est ça le problème. Hein. Il y a tellement des assassins qui se trimballent. Mais Fourniret, c'est sûr, hein, avec tous les ADN qu'il y a, soi-disant. Mais ça va demander du temps. Mais bon, moi, je vais avoir 73 ans au mois d'août. Là. C'est ça le problème. Les années tournent. Hein. Je viens de faire un infarctus il n'y a pas longtemps, en plus. Donc c'est vrai que c'est pas évident non plus.
Corinne Herman, évidemment, on entend Michel Bluzet qui exprime très bien sa détresse et puis sa volonté d'avoir la vérité. Pourquoi s'intéresser à Fourniret précisément dans ces trois dossiers?
Alors, ce sont trois dossiers non résolus qui ont eu lieu à une période où le couple était libre et où le couple circulait en France. Donc on ne peut pas... ne pas vérifier, même si on a d'autres suspects en tête, on doit vérifier si l'ADN des victimes se trouve parmi les ADN qui ont été retrouvés dans le fourgon de Michel Fourniret et de Monique Olivier, et ça voudrait dire qu'elles sont passées par ce fourgon, et dans ce cas-là, ça nous amènerait sur la piste Fourniret. Mais ce sont des vérifications pour fermer des portes, c'est-à-dire qu'en matière d'enquête, eh bien, il faut vérifier si un tueur de ce type-là, qui était libre au moment des faits, n'a pas pu passer dans la région et qu'on ne peut pas trouver la trace de ses victimes dans le fourgon. Ça ne veut pas dire qu'on pense que c'est lui, ça veut dire que ce sont des vérifications basiques qu'il faut absolument faire.
Il y a deux axes, en fait, hein, Corinne Herman, dans ce genre de vérification. Un, c'est l'emploi du temps de l'intéressé, et deux, c'est le scientifique, si je puis dire, c'est l'expertise ADN, c'est bien ça, hein?
Oui, tout à fait. D'abord, on sait qu'il passait par cette région régulièrement pour aller rechercher les enfants de Monique Olivier dans le sud. Donc, on sait qu'il passait plusieurs fois par an. Donc, on ne peut pas faire l'économie de cette vérification pour éliminer cette hypothèse. Et puis, il y a la vérification basique scientifique qui fait qu'on doit comparer l'ADN des victimes avec les ADN inconnus qui sont dans ce fourgon. Et je tiens à signaler sur ce point que, encore une fois, notre justice est très en retard. Heureusement, le texte vient d'être voté par l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de fichier des ADN des victimes des affaires non résolues. Nous ne prenons pas, nous ne faisions pas l'ADN de ces victimes, donc il a fallu les faire, ce qui a fait perdre encore du temps, établir les ADN de ces victimes, avec difficulté, puisqu'elles ne sont plus là, pour les comparer à ces ADN inconnus qui étaient dans le fourgon de Michel Fourniret.
Alors ça, c'est important ce que vous dites, hein, qu'il n'y a pas de fichier comme ça.
Il vient d'être ordonné hier.
Oui, mais ça vient... Alors, c'est jamais trop tard, évidemment. Hein.
Voilà.
Et on espère que ça va porter ses fruits. Marie-Rose Blétry, évidemment, vous attendez ces vérifications, ces fichiers au sein de l'association Christelle?
Ah, bien sûr, bien sûr. C'est c'est important. Il faudrait vraiment qu'on reprenne un peu une justice, comme vous disiez, basique, quoi. Parce que comment ne pas comparer des ADN des tueurs qui sévissent un peu partout? Pour moi, c'est tellement évident, je n'arrive même pas à comprendre qu'on ne puisse pas le faire.
Michel Fourniret, Pascal Jardin, des comparaisons nécessaires avec ces criminels pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté d'une piste sérieuse. Après tout, c'est l'ADN qui a permis de résoudre au moins un cas des disparus de la CIS, celui de Christelle Blétry. Le jeudi 19 novembre 2020, le parquet général de Dijon délivre un avis positif pour ne pas classer l'affaire Virginie Bluzet. Un dossier alors non élucidé depuis 23 ans, mais menacé de clôture par l'instruction. Avis suivi par la cour d'appel qui, au mois de décembre, désigne un nouveau juge de Chalon-sur-Saône pour mener les investigations. Il lui appartiendra de se pencher sur les emplois du temps de Pascal Jardin et de Michel Fourniret. Devant la chambre de l'instruction, Maître Seban, avocat de la famille Bluzet, avait souligné que la mort de Virginie était survenue quelques semaines après celle de Christelle Blétry. L'avocat indiquait alors « On a une unité de temps, unité de lieu ». Il est logique qu'on s'intéresse à Pascal Jardin. L'enquête Virginie Bluzet peut se poursuivre. À l'audience, son père, âgé alors de 72 ans, indiquait « J'aimerais connaître la vérité avant que je ne parte. Je me battrai jusqu'au bout. La justice ne peut pas renoncer, c'est impossible. » Presque 37 ans après la double disparition des cousines belges près de Mâcon, les familles et les avocats se battent toujours pied à pied pour que les dossiers ne soient pas refermés et que des moyens en hommes et en matériel soient maintenus pour assurer le suivi de ces affaires. Raphaël Nédico, policier qui avait arrêté Jean-Pierre Murat, condamné pour le meurtre de Christelle Maïri, dit avoir la conviction que tout est toujours possible dans un dossier, quelle que soit son ancienneté, un message sans cesse répété pour qu'il ne devienne pas inaudible par la justice. Corinne Herman, avocate de l'association Christelle, avec Maître Didier Seban, vous êtes ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Maître Herman, combien de cas non résolus dans ce dossier des disparus de la CIS aujourd'hui?
Bon, on n'a pas la liste de tous les dossiers non résolus de la région et peut-être de la région agrandie. On a une liste de dossiers qui ont été établis sur la foi des éléments de presse qu'on a pu réunir et surtout que l'association elle-même a réuni ou des éléments que l'association a pu obtenir auprès de témoignages. On va dire qu'on a à peu près 7 à 8 cas qui devraient être repris. C'est ça, ou en tout cas qui devraient être investigués, certains étant toujours dans les mains de juges ou d'enquêteurs qui n'avancent pas beaucoup, pour être honnête.
Évidemment, les enquêteurs ont aussi, je prends un petit peu leur défense, hein, ils ont aussi beaucoup de travail par ailleurs, il y a plein d'enquêtes ouvertes, et pour les juges aussi, c'est pas toujours facile.
Avons tous beaucoup de travail.
Oui, c'est vrai,
Avons tous beaucoup de travail. Et ce n'est pas n'importe quoi, vous entendez les familles, et moi je suis, pourtant je les connais depuis longtemps, je suis toujours aussi touchée par leurs mots.
C'est vrai.
On parle de meurtre, hein, on parle pas...
Bien
on
sûr,
parle de meurtre.
On parle de meurtre, on parle de familles dévastées, parce qu'en meurtre, c'est aussi derrière des victimes, effectivement, qui restent vivantes, mais qui sont, comme disait très bien Marie-Rose Blétry, qui sont des survivants. Quelle est la difficulté, Corinne Herman, vous qui connaissez parfaitement la mécanique de ces dossiers, quelle est la difficulté pour arriver à tenir ces dossiers, justement, en vie, si je puis dire? C'est quoi? C'est sans arrêt revenir à la charge, chercher de nouveaux éléments?
Oui, c'est sans arrêt proposer de nouvelles options aux juges d'instruction. C'est montrer les contradictions des enquêtes qui ont été menées. C'est aussi, avec l'aide des médias, faire parler de ces dossiers pour recueillir des témoignages peut-être nouveaux qui n'ont pas été réunis par la justice et par les policiers. C'est ce qu'on a eu dans le cadre d'SM Mouzin, où on a eu un témoignage qui a relancé l'enquête. Parfois 15 ans, 18 ans après, on peut encore avoir des témoignages essentiels. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut communiquer sur ces dossiers. Mais c'est en permanence suivre les magistrats, relancer les procédures, contester quand des investigations ne sont pas faites.
permettre aussi aux magistrats d'échanger avec les victimes, permettre aux victimes de parler aux magistrats pour, ouais, les, pour les mobiliser.
C'est important, bien sûr.
Voilà, c'est toute une mécanique. Il ne faut pas oublier, je rajouterai à ce que vous venez de dire tout à l'heure, que c'est aussi un risque de récidive. Donc c'est important de penser qu'un dossier qui est ancien, mais c'est aussi un risque de récidive demain sur notre victime. Bien et sûr. Ça, la justice l'oublie tout le temps. Mmh.
Marie-Rose Blétry, mère de Christelle Blétry, qui a été tuée en 1996 et fondatrice de l'association Christelle, comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui à l'association? Vous continuez à recueillir des témoignages, voire à aller chercher, à accueillir des personnes?
Oui, tout à fait. Je vais dire que allez, tous les 15 jours, nous recevons des témoignages sur le portail de l'association, des appels au secours de certaines familles. Alors c'est sûr qu'on peut pas, on peut pas tout prendre au sein de l'association parce qu'on peut pas.
Mais vous êtes des bénévoles, hein, il faut bien le souligner aussi. Hein.
Exactement. Et puis financièrement, ça serait compliqué. Alors dans nos statuts, il est parlé de la Saône-et-Loire et je vous assure que c'est déjà beaucoup de travail. Donc mais par contre, on aide toujours toutes les familles qui nous sollicitent pour les aiguiller vers des avocats, vers des choses basiques aussi à faire qu'elles ne peuvent pas faire parce qu'elles sont elles sont anéanties tout simplement. Mmh.
Parmi tous ces dossiers qu'on a cités, évidemment, on ne va pas faire le tri. Mais est-ce qu'il y en a un qui vous... Alors, il y a évidemment le dossier de votre fille, évidemment. Mais est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus particulièrement, quelque chose qui a pu vous révolter de manière assez directe?
Alors, tous ces dossiers me marquent beaucoup. Mmh. Mais un en particulier, c'est celui de Carole Soltysiak, parce que je connaissais...
La petite Carole, ouais, c'est ça.
Je connaissais les parents avant le drame. Mmh. Donc c'est vraiment un dossier que j'aimerais voir. J'aimerais que l'assassin soit condamné. L'assassin ou les assassins. Et ce qui m'agace beaucoup dans ce dossier, c'est que on a deux suspects de mise en examen depuis tellement longtemps, depuis plus de 20 ans, que je n'arrive pas à comprendre la justice. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Et je crois qu'on nous doit aussi à l'association qui œuvre depuis tant d'années, on nous doit justement une réponse par rapport à ça. Pourquoi on maintient des gens des gens, ils sont mis en examen et il se passe rien. Ouais,
et y a pas de communication, c'est ce que vous regrettez. Il y a pas de dialogue engagé.
Mais ça, c'est pas normal non plus.
On est d'accord.
Gens en examen et qu'il n'y ait pas de jugement.
On est d'accord. Enfin, c'est souvent le grief que font effectivement les familles de victimes. Maître Herman, est-ce qu'on arrivera finalement à élucider ces affaires de la CIS? Alors sans lire dans le marc de café, évidemment, mais.
Nous, on l'espère toujours. Évidemment qu'on espère qu'on arrivera à faire avancer les choses. Ce qu'il faut, c'est encore une fois mobiliser les magistrats et les faire travailler les enquêteurs et se faire entendre. Mais oui, on devrait, en tout cas techniquement, rien ne s'oppose à ce que ces dossiers soient résolus. Il y a beaucoup d'éléments dans chacun de ces dossiers qui sont restés inertes, qui n'ont pas été exploités malgré nos demandes. Il y en a certainement qu'on n'a pas vu, qui sont encore inertes aussi. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas résoudre ces dossiers. C'est une question de volonté judiciaire, c'est tout.
Hein. Et encore une fois, on le répète, hein, ce sont des dossiers qui font des dommages épouvantables. Hein. Oui. Dans la famille de la petite Carole, dont parle à l'instant Marie-Rose Blétry, évidemment, là, la famille a été totalement dévastée.
Toutes les familles le sont, elles ont des façons différentes de réagir, mais toutes le sont. Et pour être très honnête, ça nous atteint aussi, parce que cette souffrance, on ne peut plus la comprendre, on ne peut plus expliquer. Hein, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des réponses pour les familles, et j'espère qu'on vous entendra et qu'on nous entendra.
On l'espère aussi. Michel Bluzet, vous avez le mot de la fin, si je puis dire. Vous êtes le père de Virginie Bluzet. Vous avez toujours l'espoir, vous, de connaître la vérité?
En tous les cas, ma fille est décédée malheureusement, donc je voudrais bien savoir la vérité avant de partir, c'est le cas de le dire, quoi. En mémoire de mon épouse et puis de mes enfants, quoi. Et puis tous ces assassins qui courent et puis qui sont pas punis, c'est surtout ça. Hein. Nos filles, elles n'ont rien demandé, quoi. C'est ça le problème, hein, de toute façon, hein, pour qu'on les assassine comme ça. Surtout que moi, ma fille, on fait la totale quand même, menottée, bâillonnée. Faut pas nous oublier, quoi, c'est le cas de le dire, hein.
Merci beaucoup Michel Bluzet, maître Corinne Herman et Marie-Rose Blétry d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire des disparus de la 6. Une longue quête pour accéder à la vérité, espérons que celle-ci soit fructueuse pour Monsieur Bluzet qu'on vient d'entendre, pour Marie-Rose Blétry, son association et pour toutes les familles de victimes. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Vivian Lecuivre à la réalisation, un immense merci à vous toutes et tous d'avoir été ce soir fidèles encore une fois à l'heure du crime.